Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de Nine Nar Tree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Apologie de Socrate est un texte philosophique de Platon qui met en scène la défense prononcée par Socrate devant le tribunal athénien qui le juge, dans cette édition française de poche. Le lecteur rencontre une œuvre brève mais centrale pour comprendre la figure socratique et la naissance de la philosophie comme examen critique de la vie humaine. Les accusations sont graves, ne pas reconnaître les dieux de la cité et corrompre la jeunesse. Platon ne propose pas un compte-rendu judiciaire neutre. Il construit le portrait intellectuel et moral de son maître au moment où celui-ci refuse de sacrifier ses principes pour sauver sa vie. Le texte combine argumentation, interrogation et ironie. Son objet dépasse donc les circonstances du procès, il examine ce que signifie savoir, agir justement, éduquer autrui et affronter la mort. Loin de rechercher les effets de la rhétorique, Socrate défend une parole attachée à la vérité telle que la raison peut la poursuivre. Cette apologie demeure une porte d'entrée particulièrement accessible vers les exigences éthiques et critiques de la pensée platonicienne. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le procès comme épreuve de la mission philosophique de Socrate. La défense de Socrate répond à deux types de reproches, les accusations officielles portées devant le tribunal et une hostilité plus ancienne, née de sa réputation publique. Cette distinction est décisive. Socrate estime que les préjugés accumulés contre lui sont plus difficiles à combattre que la plainte juridique elle-même, car ils ont façonné durant des années une image caricaturale du philosophe. Il doit donc expliquer pourquoi il interroge les citoyens et pourquoi cette pratique a suscité ressentiment et méfiance. Son activité est liée à la parole de Delphes, affirmant qu'aucun homme ne serait plus sage que lui, plutôt que de recevoir cette parole comme un éloge. Socrate cherche son sens en examinant ce qui passe pour savant, notamment dans les domaines politiques, poétiques et artisanales. Il découvre que certaines compétences réelles se transforment souvent en prétention à savoir ce que nul ne sait véritablement. Sa mission consiste ainsi à révéler cette confusion. Le procès met en lumière une tension durable entre une cité soucieuse de réputation, de conformité et de persuasion, et une pratique philosophique qui oblige chacun à rendre compte de ses convictions. Platon ne présente pas Socrate comme un adversaire de toute vie civique. Il le montre plutôt comme un citoyen qui estime servir la cité en réveillant son jugement moral même lorsque ce service devient politiquement dangereux. Deuxièmement, la conscience de ne pas savoir comme forme exigeante de sagesse, le paradoxe socratique de la sagesse ne consiste pas à célébrer une ignorance passive. Socrate se distingue parce qu'il ne transforme pas son absence de savoir certain en compétence imaginaire. Lors de ses enquêtes, il constate que des hommes reconnus pour leur autorité possèdent parfois une connaissance pratique ou technique, mais tire de cette compétence limitée la conviction injustifiée de tout connaître. La lucidité socratique commence donc par une délimitation savoir ce que son savoir permet réellement d'affirmer. Cette position explique la méthode du dialogue. Les questions ne visent pas seulement à confondre un interlocuteur. Elles demandent des définitions cohérentes de la justice, de la piété, de la vertu ou du bien. Quand les réponses se contredisent, la difficulté révélée appartient autant à celui qui répond qu'aux habitudes collectives qui soutiennent ses certitudes. Dans Apologie de Socrate, cette démarche possède une portée éthique. Une personne qui ignore ses propres limites risque de juger, de gouverner ou d'éduquer sans examen. Reconnaître son ignorance ouvre au contraire un travail de recherche et protège contre la arrogance. Le texte ne fournit pas une doctrine systématique de la connaissance. Il met en avant une discipline intellectuelle, préférer une question honnête à une réponse flatteuse. Soumettre les opinions réputées évidentes à la raison et accepter que la vérité demande une révision de soi. Troisièmement, la réfutation des accusations de corruption et de non-piété. Socrate traite les chefs d'accusation par un raisonnement qui cherche moins à émouvoir les juges qu'à tester la cohérence de la plainte. Face à Mélétos, il examine d'abord la prétendue corruption de la jeunesse. Si Socrate corrompt volontairement les jeunes Athéniens, il se rendrait lui-même vulnérable aux dommages causés par de mauvais concitoyens. Cette hypothèse paraît peu rationnelle. Si cette corruption était involontaire, la réponse appropriée serait alors une instruction ou un avertissement, non une poursuite pénale. Socrate fait aussi ressortir la fragilité de l'idée selon laquelle presque tous les citoyens amélioreraient les jeunes, tandis que lui seul les dégraderait. L'argument ne prétend pas résoudre tous les problèmes de l'éducation. Il révèle le caractère simplificateur de l'accusation. Sur la piété, il relève une incompatibilité. Mélétos lui reproche à la fois de ne croire à aucun dieu et de reconnaître des réalités divines nouvelles. Or, croire à des signes ou à des êtres divins implique au moins une forme de rapport au divin. La défense ne doit pas être lue comme une profession de théologie complète. Son enjeu est judiciaire et philosophique. Un accusateur doit formuler des griefs intelligibles et non additionner des affirmations contradictoires. Platon montre ainsi que le raisonnement dialectique peut dévoiler les failles d'une accusation même dans un cadre dominé par la pression collective. Quatrièmement, la priorité absolue de la justice sur la survie et la réputation. L'un des principes les plus fermes du texte est que le bien moral ne doit pas être subordonné à la conservation de la vie, à la popularité ou à la richesse. Socrate refuse de supplier les juges en exhibant sa famille ou en recourant au procédé émotionnel attendu dans un tribunal. Il ne nie pas la gravité de la peine possible, mais il juge qu'une défense indigne abîmerait précisément ce qu'il cherche à protéger, une vie conduite avec justice. Cette position repose sur une hiérarchie des biens. La fortune, les honneurs et la sécurité corporelle ont une valeur incertaine si la personne néglige son âme, entendue comme le lieu de la rectitude morale et du jugement. Socrate rappelle aussi des épisodes de sa vie civique où il a refusé de participer à des décisions qu'il estimait injustes sous la démocratie comme sous le régime des Trente. Ces références ne servent pas seulement à établir son courage personnel. Elles précisent que l'intégrité se vérifie dans les actes lorsque l'autorité demande une complicité avec le tort. Le texte ne recommande pas une indifférence abstraite au danger. Il affirme plutôt que la peur ne peut devenir le critère principal de la conduite. Cette exigence donne au procès une portée éthique durable. Il interroge les compromis que chacun accepte lorsqu'une pression sociale ou politique se oppose à son jugement raisonné. En dernier lieu, la mort, le signe divin et les limites légitimes de la certitude humaine après la condamnation. Socrate aborde la mort sans prétendre posséder un savoir définitif sur ce qui attend les morts. Il envisage deux possibilités, une absence de sensation comparable à un sommeil sans trouble, ou une migration de l'âme vers un autre lieu où il pourrait continuer à s'entretenir avec les figures du passé. Ces images ne constituent pas une preuve métaphysique. Elles soutiennent une thèse plus prudente, craindre la mort, comme le pire des maux suppose, de savoir ce que nul vivant ne connaît avec certitude. La peur peut donc masquer une prétention de savoir. Cette réserve est cohérente avec la conscience socratique de ses limites. Toutefois, Socrate ne décrit pas la mort comme une simple énigme neutre. Il fait confiance à l'idée qu'un homme juste ne peut subir un mal décisif du fait de ses ennemis, car le dommage le plus grave serait moral, non physique. Son signe divin, qui intervient habituellement pour le détourner de certaines actions, ne se manifeste pas durant les événements qui conduisent à la sentence. Socrate y voit un indice, non une démonstration, que son sort ne doit pas être considéré comme mauvais. La fin du texte unit ainsi piété, rationalité et courage. Elle demande de distinguer ce qui relève du savoir, de la croyance raisonnable et de la décision éthique face à l'incertitude. En conclusion, Apologie de Socrate convient aux lecteurs qui abordent la philosophie antique, aux élèves et étudiants qui cherchent un texte court à analyser, ainsi qu'aux lecteurs intéressés par les rapports entre conscience individuelle, pouvoir politique et responsabilité morale. Sa brièveté ne signifie pas simplicité immédiate. La force du livre réside dans une argumentation qui oblige à examiner les mots ordinaires tels que savoir, justice, piété, éducation et courage. Il offre un bénéfice intellectuel concret en montrant comment identifier une contradiction, distinguer une réputation d'une preuve et reconnaître les limites de ses certitudes. Il invite aussi à une réflexion pratique sur la manière de rester fidèle à un jugement moral lorsque la majorité, les institutions ou la peur poussent dans une autre direction. Par rapport à d'autres textes philosophiques de l'Antiquité, cette œuvre se distingue par sa forme dramatique et judiciaire. Les idées ne sont pas exposées dans un traité abstrait, elles sont mises à l'épreuve par une condamnation capitale. Cette situation donne une densité singulière aux principes défendus. Le Socrate de Platon ne garantit pas des réponses définitives. Il rend visible une manière de penser fondée sur la discussion, la cohérence et le refus de feindre le savoir. Pour cette raison, le livre demeure une introduction majeure à la philosophie comme pratique de l'examen de soi et de la vie commune. Si vous souhaitez soutenir Platon, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.